La presse de ce dimanche, la revue de presse de Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour, c'est une petite infographie qui passerait presque inaperçue si elle n'en disait pas si long. Page 14 du journal du dimanche, des petits dessins de pistolets et des chiffres glaçants, car oui, on le sait, les armes sont une passion américaine, titre cet encadré. On le sait, mais quand même, 30 000 Américains tués par arme à feu chaque année. Un nombre d'armes qui, en 20 ans, a augmenté de 71%. Ceux qui en détiennent en ont 17 en moyenne. C'est le cri de colère d'une lycéenne repris partout. Les sites des Échos, l'Obs, l'Express, mais encore Süddeutsche Zeitung ou New York Post. Honte à vous, crache entre larmes et colère, cette adolescente aux cheveux rasés. 3 jours après la tuerie dans un lycée de Floride, les survivants et leurs soutiens se sont réunis hier. Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie et qu'on n'y peut rien faire, poursuit la jeune fille reprise entre autres sur le site de l'Express, je lui demanderai combien il a touché de la National Rifle Association, je le sais, 30 millions de dollars. Alors, on s'interroge, pourquoi le lobby des armes est-il devenu si puissant, se demande lemonde.fr dans une vidéo. Dans le quotidien espagnol El País, ce sont les citoyens eux-mêmes qui répondent. Scott Porter, un premier fusil à l'âge de 13 ans, cadeau de Noël, un deuxième à 18. Aujourd'hui, 14 pistolets, 4 fusils d'assaut, 6 fusils de chasse, la liste continue. Mais pourquoi? C'est juste que je les aime, j'adore les armes, répond cet Américain de Louisiane. George Lyon, lui, préfère parler d'autodéfense. « Vous ne savez jamais ce qui va se passer », argumente cet avocat de Washington. À moins que l'on sache que trop bien ce qui se passera justement.
Dans la presse de ce dimanche également, des questions d'héritage.
Celui de Johnny, bien sûr, encore. On voudrait passer à côté qu'on ne pourrait pas. Cette fois, c'est Lynn Renault qui demande dans Le Parisien qu'on le laisse en paix. Alors qu'on apprend qu'au cœur des déchirements familiaux, il y a l'album posthume du rocker sur lequel ses enfants réclament un droit de regard. Et qu'on apprend aussi dans le journal du dimanche, cette fois, qu'Alain Bachung, lui, non plus, n'aurait rien légué à son fils. Son ex-épouse s'épanche, le fils en question, lui, pense encore ses blessures. Mais l'autre héritage qui intéresse vos journaux est politique, celui-là, et les protagonistes bien vivants. La fille, Marine, une de l'Ardennais ou de l'Union, pour son passage à Laon dans le cadre de la refonte du parti, le Front National. Le père, Jean-Marie, fustige et menace même dans le JDD face au changement de nom qui se profile. Une trahison, dénonce-t-il, avant de s'en prendre directement à Marine Le Pen, qu'il ne voit plus, dit-il. J'ai existé avant elle, elle existe grâce à moi. Elle ne pourra rompre ses liens avec moi qu'en se suicidant. Jean-Marie Le Pen, bien déterminé à se rendre au congrès du parti le mois prochain à Lille. Qu'importe si sa fille ne veut plus de lui. Les retrouvailles promettent d'être charmantes. Alors d'où vient la conviction que les hommes politiques sont tous pourris, s'interroge Slate.fr, qui rappelle que depuis le début des années 90, le soupçon est grandissant, les hommes politiques seraient tous corrompus. L'affaire Cahuzac, jugée en ce moment en appel, en est l'apothéose. En 2016, 75% des Français pensaient l'élite politique plutôt corrompue, selon une étude TNS-Sofres. Plus on est modeste ou en situation de précarité, plus on y croit. Et les scandales, plus largement médiatisés désormais, ne viennent que confirmer ces convictions. Mais que disent alors les citoyens à leurs élus? Pour beaucoup, leur quotidien difficile en témoigne les paquets de lettres adressées à Emmanuel Macron. 1 000 000 chaque jour, 190 000 depuis le début de son mandat. Plongé au cœur du service de la correspondance présidentielle offerte par Le Parisien aujourd'hui en France. Outre les dessins d'enfants ornés de cœurs et de mots doux, les petites cartes pour vous dire que vous êtes un bon président. Il y a les préoccupations quotidiennes et celles-là font l'objet de toutes les attentions d'Emmanuel Macron qui réclamerait régulièrement des notes d'analyse de ses correspondances. Alors à vos plumes peut-être, d'autant que pour écrire au président de la République, c'est comme pour le Père Noël, pas besoin de timbre. Ah,
c'est l'avantage. Si le vol SpaceX de la semaine dernière n'était pas seulement qu'un incroyable événement historique.
Question posée ce matin sur le site de l'Obs par Lionel Morel, chargé de mission pour la valorisation de l'information scientifique et technique à Paris-Nanterre. Si cette spectaculaire expédition d'une voiture en direction de Mars laissait présager une future privatisation de l'espace, car se pose, selon le chercheur, la question du statut juridique des ressources spatiales. Et si SpaceX est la plus visible des entreprises privées à avoir jeté son dévolu sur cette immensité, elle est loin d'être la seule. Il faut dire que la législation américaine depuis 2015 prévoit que toute entreprise qui aura les moyens d'envoyer un engin dans l'espace pourra s'approprier les ressources qu'elle en retirera. Une loi saluée à l'époque par les géants miniers qui rêvent déjà à des projets futurs sur la Lune.
Après la Lune, la glace, celle de Pyeongchang, l'espoir d'une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver.
Pour les Français, Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, premier de la glace, titre joliment le journal du dimanche, couple à la patinoire, mais pas à la ville, précise-t-il. Pas même de colocation ou de vie sociale en commun pour ces patineurs aux gestes pourtant si sensuels. Mais lui est plutôt la glace et elle le feu, écrit Damien Burnier. Et les jeunes sportifs de 23 ans ont retenu la leçon des éclats de voix récurrents entre Marina Anissina et Gwendal Pezera. Alors, on a appris à gérer les défauts de l'autre, explique Guillaume Cizeron. Si on voulait se détester, on pourrait, mais on préfère la facilité. La facilité, tout le contraire de ce qui les attend demain et mardi sur les notes de Beethoven et la patinoire coréenne. Pas un couple là non plus, mais deux adversaires qui se respectent. Martin Fourcade, grand, brun, un côté gendre idéal selon l'équipe, 29 ans, deux enfants français. Et puis le Norvégien, Johannes Bo, plus jeune, plus petit aussi, Tignas Roos et un côté rockstar, peut-on lire à son propos. Les deux hommes sont prêts à s'affronter ce midi dans la mass start, départ en masse pour les non-connaisseurs de biathlon, car ils font figure de favoris au style si différent. L'aîné prévoit, anticipe, quand le cadet s'adapte à l'instant présent. Et si seuls 5 ans les séparent, c'est déjà toute une génération. Et puis, marre de la pluie, rien ne vaut un bon petit arrêté municipal pour résoudre cela. Expérimentation du maire de Chalens, c'est en Vendée, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Depuis jeudi, le soleil y est dans l'obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi. La pluie, elle, n'est plus autorisée que 3 nuits par semaine afin de maintenir à niveau la nappe phréatique. Et ça marche, ou en tout cas, ça a marché dès le lendemain de la signature de l'arrêté faite par Humour, assure le maire, qui croule désormais sous les appels. Demain, il doit donner une interview à la radio belge. Question météo. Nos voisins d'Outre-Quivrin seraient peut-être intéressés.
On va suivre ça avec intérêt. C'était la revue de presse de Charlotte Piret.